tout cas, au chapitre 3 de cet évangile, la grande question qui se pose est celle de savoir qui peut entrer dans le royaume. Qui peut avoir la carte de séjour éternel. Alors, ces dernières semaines, nous avons vu un Jésus qui est le roi, le maître du royaume, qui arrive, qui est bel et bien là. Et Jésus commence à faire des vagues, on l'a vu dans le deuxième chapitre de Jean. Il a changé de l'eau en vin, un signe qui nous montrait que le royaume était bel et bien là. Ce royaume éternel où la mort sera vaincue à tout jamais, il est là en la personne de Jésus. Et la semaine dernière, Michael nous a montré que ce roi n'était pas un pantin qui laisse passer n'importe quoi, mais un juste juge qui juge la stérilité de la religion humaine avec son hypocrisie et qui la remplace non pas avec des lois ou des rites, mais avec lui-même, avec sa personne. C'est lui qui est le temple, lui qui dorénavant, c'est le lieu où nous rencontrons Dieu, où on peut être réconcilié à tout jamais notre Créateur. Alors, un évangile n'est pas simplement une collection de petites histoires concernant Jésus. L'évangéliste Jean a organisé son matériel. Et au chapitre 3, la question c'est comment est-ce qu'on peut entrer dans ce royaume? Comment y avoir accès? Quelles sont les conditions? Et ensuite, on va voir dans quelques semaines le chapitre 4 qui suit. Et Jean parle de qui peut entrer dans le royaume. On va voir une femme samaritaine, une femme étrangère de mauvaise vie qui entre dans le royaume. Alors, ma mère m'a toujours appris de ne jamais écouter les conversations privées des gens, de ne pas écouter aux portes. Mais ce matin, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va écouter la conversation privée entre Jésus et un homme qui s'appelle Nicodème. Dans un premier temps, nous allons faire connaissance avec Nicodème. On va voir que même le meilleur d'entre nous n'y passe pas. Et dans un deuxième temps, on va réfléchir à ce que Jésus dit. Surtout à ce qu'il dit par rapport à cette nouvelle naissance. Il nous dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est vraiment le maître mot de ce passage. Alors, Nicodème, d'abord. Nicodème est un homme remarquable. Au verset 1, on voit qu'il est pharisien. Alors, ça veut dire qu'il était une personne très religieuse. À l'époque, les pharisiens étaient connus pour la piété. Il respecte scrupuleusement les lois, les traditions juives de l'époque. Et en effet, Nicodème, c'est un homme qui cumule tous les mandats. Le verset 1 nous dit qu'il est un chef des Juifs, un peu comme un député, un sénateur ou un préfet. Et au verset 10, nous découvrons qu'il est l'enseignant d'Israël, le enseignant d'Israël, un peu comme le grand rabbin de France ou l'archevêque de Paris ou peut-être comme le doyen de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine. Manifestement, Nicodème est aussi quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc, il vient voir Jésus, il veut en savoir plus. Il veut parler avec Jésus. Et il dit au verset 2, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, de prime abord, ce que Nicodème dit peut nous ressembler, qui peut nous sembler raisonnable, voire louable. Mais Jésus lui répond en lui disant, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, c'est une réponse un peu curieuse, parce que Jésus répond en lui disant que, en effet, Nicodème ne voit rien du tout. Alors, certes, Nicodème a vu des signes miraculeux, ces signes que Jésus a faits. Il a dû faire partie des foules ébahies en liesse. Mais selon Jésus, Nicodème n'a pas encore vu le royaume transformateur et salvateur de Dieu. Jetez un coup d'œil sur les versets qui précèdent notre passage. Donc, si vous avez fermé vos Bibles, je vous invite à les rouvrir donc, à la page 688. Et juste avant notre passage, donc à la fin du chapitre 2, c'est écrit « Beaucoup crurent en lui, en Jésus, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. » Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on se renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Alors Jésus connaît cet homme, Nicodème. cet homme qui vient de nuit l'interroger. Jésus connaît son cœur. Il sait que cet homme est finalement loin de voir le royaume. Que sa foi, si on peut l'appeler une foi, est simplement basée sur les signes. Comme Micah disait, Jésus fait ses signes, mais il veut surtout que ces signes renvoient vers lui-même, vers Jésus. Alors, on voit quelques versets plus loin, au verset 5, que le fait de voir le royaume est synonyme d'y entrer. Est-ce que vous voyez ça au verset 5? À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce terme « royaume de Dieu » est un peu technique, hein? Jésus parle du règne éternel de Dieu, une réalité qui va devenir pleinement manifeste au retour de Jésus, lorsque Jésus revient pour juger le monde et pour accueillir, chercher les siens. Mais le plus souvent dans cet évangile, lorsque Jean veut parler de cette réalité-là, il utilise le terme « la vie éternelle ». Donc ça donnerait quelque chose comme « à moins de naître de nouveau, on ne peut recevoir la vie éternelle. » Jésus est on ne peut plus clair. Il faut que Nicodème naisse de nouveau. Tel qu'il est, il ne passera pas. Nicodème ne fait pas l'affaire. Alors, je ne sais pas quel effet cela a sur vous. Je pense sans doute elle aurait laissé bouche bée la plupart des gens de son époque. Il se serait dit, si Nicodème n'y arrive pas, qu'en est-il de moi? Il n'y a aucune chance pour moi. C'est un peu comme si une personne pouvait cumuler toute la compassion de Mère Teresa ou de Saint Emmanuel, tout le sens de justice d'Abbé Pierre et tout le zèle de Billy Graham, et malgré tout cela, ne pas être en mesure de recevoir la vie éternelle. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est le deuxième point, donc. Mais de quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit cela? Nicodème est perplexe. Tout comme un immigré à la préfecture serait perplexe si on lui demandait de naître de nouveau pour avoir le droit de séjour sur le territoire de la République. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Dans la vie de tous les jours, on parle de temps en temps de la notion de donner une deuxième vie à quelque chose. Si on répare bien une voiture, on lui donne droit à une deuxième vie. Qui se souvient des barres chocolatées qui s'appelaient Raider? Un beau jour, ils ont changé le nom et du jour au lendemain, ils s'appelaient Twix. En fait, en Angleterre, ils s'appelaient toujours Twix. En fait, ils n'ont jamais changé le nom. Ce produit a connu une nouvelle naissance sur le marché. Mais bon, au fond, il n'y a que l'emballage, il n'y a que la pub qui a changé. La recette est restée identique. Alors, on va voir que ce n'est pas ainsi de la nouvelle naissance de l'esprit. Elle conduit à un vrai changement intérieur, un changement de recette. Au verset 5, Jésus décortique un peu plus ce qu'il veut dire. Cette nouvelle naissance est une naissance d'eau et d'esprit. Alors, il y a eu différentes interprétations au fil des années, surtout pour l'aspect de cette question de l'eau. Certains ont pensé à la naissance naturelle, normale. D'autres ont pensé au baptême. Mais c'est le contexte de l'Ancien Testament qui corrige ces réponses et nous met sur la bonne piste. L'Ancien Testament nous parle de l'eau et de l'esprit ensemble à plusieurs reprises, et notamment dans un passage en particulier qui se trouve dans Ézéchiel 36. Donc je vais vous inviter à chercher ce passage. C'est le seul passage qu'on va chercher ce matin. Donc Ézéchiel 36, c'est à la page 558 dans nos Bibles blanches. 558. Alors c'est un passage, il s'agit d'une prophétie. Le prophète Ézéchiel est en train de prophétiser. Le peuple de Dieu se trouve à Babylone. Le peuple est en exil parce que Dieu les a puni le peuple à cause de la désobéissance. Mais Ézéchiel parle de l'avenir, de ce que Dieu va faire à l'avenir. Dans 36, si je vais lire à partir du verset 25. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que vous voyez ce que Dieu promet? Ce n'est pas un simple coup de neuf, quelques règles ou quelques lois de plus, quelques rites à faire. Ce n'est pas simplement un changement d'emballage. Non, Dieu promet une transformation morale radicale. Il promet un miracle. Il promet de faire de ses enfants de nouvelles créatures. Il promet de laver son peuple avec de l'eau purificatrice et de changer leur cœur avec son esprit. De changer leur cœur pour qu'ils aient envie de le servir, de le suivre, de l'aimer, d'aimer leur prochain, de trouver leur joie en lui, leur satisfaction en lui. Dieu promet un changement de régime, un changement de cœur. Il s'agit d'une œuvre divine, de chirurgie spirituelle. Mais on peut se poser la question, pourquoi cette nouvelle naissance est-elle si nécessaire? On le voit dans ce passage dans Ézéchiel. Je vous purifierai de vos impuretés et de vos idoles. Ce verset est annoncé au peuple d'Israël à un moment spécifique de leur histoire. Dans l'histoire d'Israël, il y avait parfois des moments de réforme. Il y avait parfois un bon roi, un roi qui était fidèle au Seigneur et les choses allaient mieux. Mais dans l'ensemble, l'histoire d'Israël nous montre un asservissement terrible, une incapacité à suivre le Seigneur, une incapacité à obéir à ses voies. Le peuple s'est toujours détourné du Seigneur, de ses voies, pour servir d'autres seigneurs. Le peuple a vécu comme si le Dieu qu'il avait choisi, qu'il avait aimé, qu'il avait sauvé, n'existait pas. Et Jésus est en train de dire que même Nicodème a ce même problème. Que Nicodème aussi est empêtré dans ses impuretés, dans ses idoles. Lui qui est si bien, si religieux, si respectable. Alors comment ça? Il y a des gens, à l'instar du fils prodigue, qui de manière très publique ne veulent rien faire avec Dieu. On le sait parce qu'ils le disent haut et fort. Ils rejettent son autorité et ses lois de manière ostentatoire. Ils veulent vivre librement leur choix. Ils revendiquent leur liberté d'action et de pensée. Ils refusent qu'un Dieu quelconque puisse leur dire quoi que ce soit. Et en revanche, il y a des gens très religieux, un peu comme Nicodème, qui essaient de faire le bien, qui ont un grand respect pour l'ordre moral, qui parlent de Dieu, qui vont assidûment aux offices religieux. Et bien sûr, il y a plein de gens qui sont un peu entre les deux, à des degrés différents. Et Jésus est en train de dire que même les gens qui sont dans le camp de Nicodème ont besoin de ce changement radical. Selon Jésus, les gens dans les deux camps, et même toutes les personnes qui sont entre les deux, ont besoin de ce changement intérieur, ce nouveau cœur. J'ai entendu un pasteur donner cette illustration une fois. Imaginons un enfant qui grandit avec son père. Un père qui l'aime et qui prend soin de lui. Ce père, il éduque bien, il lui inculque de bonnes valeurs, de l'honnêteté, de la compassion, et ainsi de suite. Et un jour, le fils part à la fac ou peut-être aux classes prépa ou quelque chose comme ça. Et son père lui dit, appelle-moi donc à la fin de la semaine, donne-moi de tes nouvelles. Et le fils lui dit, oui, c'est promis, papa, oui, il n'y a aucun problème. Il part pour la fac, il s'inscrit à la fac pour ses cours. Et le père attend un coup de fil à la fin de la semaine. Rien. Ensuite, il se dit, je vais quand même lui toucher un mot par email, donc ça va passer si, ou peut-être par SMS. Toujours rien. Il s'est dit, bah, je vais peut-être devenir ami avec lui sur Facebook. Toujours rien. Les semaines passent, toujours rien. Le fils ne rentre même pas à Noël pour les vacances. Alors le père, il sait qu'il est en vie parce que, ouais, il encaisse les chèques. Il y a parfois une facture qui arrive à la maison. Le père est profondément blessé. C'est un outrage. Après tout ce qu'il a fait pour son fils, il aime son fils. Et un jour, il décide d'aller à la fac pour voir son fils. Le père, il veut des explications. Le fils lui dit, moi, je ne comprends pas, père. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Dans l'ensemble, ici à la fac, j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit. Moi, j'ai été honnête dans l'ensemble. Je n'ai pas triché lors de mes examens. J'ai trié mes déchets. Je suis même allé à l'église de temps en temps. J'ai aidé les personnes âgées à traverser la rue. Pourquoi tu m'en veux ? Ben, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer comment le père va y répondre. L'outrage est si évident. Et vous savez vous-même comment vous y répondriez. Jésus connaît le cœur de l'homme et il ne s'y fie pas. Notre cœur est si aveugle, si asservi par notre soif d'autonomie vis-à-vis de Dieu. Et le problème de notre péché, de notre désobéissance, est beaucoup plus grave, beaucoup plus ancré en nous qu'on ne le pense. Même Nicodème est touché de plein fouet. Certes, extérieurement, il a l'air carré, mais intérieurement, son cœur est tortueux. Il est esclave de ce désir de vivre pour lui-même, de s'auto-justifier, de faire le fier devant Dieu. Les nouvelles lois, les nouvelles réformes, l'assiduité au culte, à la messe, les nouvelles résolutions prises au début de l'année, les efforts de faire entrer les gens dans le moule, les tentatives de donner une apparence de bienséance, mais tout ça, ça ne va jamais marcher, ça ne va jamais changer les choses. Jésus est en train de dire, toi aussi Nicodème, tu es spirituellement mort. Et les morts ne peuvent changer. Toi aussi, tu ne pourras pas te changer toi-même. Et Jésus martèle le point lorsqu'il dit pour la troisième fois au verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut que Dieu intervienne dans sa vie. Il n'y a pas d'autres options. Jésus commence à lui parler au pluriel, avec le « vous ». Parce que Nicodème représente toute l'humanité. Un peu comme l'histoire d'Israël nous sert de miroir sur nos propres vies. Nous avons tous besoin de cette nouvelle naissance, de cette transformation spirituelle, de cette résurrection spirituelle. Ça veut dire que la famille musulmane qui habite à côté de chez moi, aussi sympathique qu'elle soit, a besoin de cette nouvelle naissance. Ça veut dire que mes amis, mes anciens collègues au bureau, qui sont athées, mais tout à fait charmants, ont eux aussi besoin de cette chirurgie spirituelle. Il y va de même pour ma petite nièce, qui a 9 mois. Elle aussi a besoin d'une naissance spirituelle, une deuxième naissance. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. Cette nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu seul. Jésus dit au verset 6, « Ce qui est né de parents humains est humain. » Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Autrement dit, il n'y a que Dieu qui peut nous changer, qui peut changer notre nature. Un chien donne naissance à un chien, un éléphant à un éléphant. Un homme qui est spirituellement mort donne naissance à un homme qui est spirituellement mort. On ne peut pas donner naissance à des êtres spirituels. Ça n'est tout simplement pas possible. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut donner la vie spirituel. Il nous faut une œuvre souveraine de l'esprit. C'est son œuvre du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que Jésus parle du vent au verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne née de l'esprit. C'est Dieu qui fait naître de nouveau. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas manipuler l'esprit avec des incantations ou des prières avec autorité, non. On ne peut l'obliger à rien. C'est Dieu qui donne la vie spirituelle selon son bon vouloir. C'est son choix. Cependant, tout comme on entend le bruit du vent, on peut voir les fruits de cette nouvelle naissance. Je vais conclure en anticipant un peu sur le passage de la semaine prochaine, la prédication de la semaine prochaine, parce que c'est dans la suite du passage que nous voyons les fruits de cette nouvelle naissance. Le premier fruit, sinon le fruit de la nouvelle naissance, c'est le fait d'entendre les paroles de Jésus et de croire en lui, de s'accrocher à Jésus, de nous confier coûte que coûte à lui. Alors ce n'est pas la foi en Jésus qui nous donne la nouvelle naissance, mais c'est la nouvelle naissance qui nous conduit irrésistiblement à la foi. Avec Dieu, tout est par grâce, tout nous est donné. À la suite du passage, et si vous avez le temps dans la semaine aussi, la suite du passage dans Ézéchiel nous montre le lien entre la nouvelle naissance et la parole de Dieu. Cette nouvelle naissance est une œuvre souveraine de l'Esprit de Dieu. Dieu décide qui la reçoit. Ça, il faut le reconnaître, ça dépasse notre entendement. Mais en même temps, Dieu ne donne pas cette nouvelle naissance indépendamment de l'annonce de sa parole. Nous le voyons à maintes reprises dans les Écritures. Dieu œuvre par son Esprit au moyen de la parole. On ne peut pas divorcer ce que l'Esprit fait de ce que la parole fait. C'est un point important. Les versets qui vont suivre ce passage vont nous parler de Jésus, de l'Évangile, de la croix, de l'Évangile de la grâce. L'Esprit qui donne cette nouvelle vie nous l'applique par ses paroles vivantes et vivifiantes. Alors, plus loin dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, voilà, j'ai projeté ses paroles, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien, on voit ça avec Nicodème. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alors ça veut dire que ce matin, si vous avez mis votre foi en Jésus, en ses paroles, si votre cœur se réjouit en sa grâce, en sa bonté, si en fait vous avez ce désir de marcher avec Jésus selon sa parole, ben c'est que l'Esprit de Dieu a déjà fait ce miracle dans vos cœurs. Certes, nous avons tous beaucoup de chemin à faire, mais la direction fondamentale de nos vies a fait demi-tour. Ce n'est pas nous qui l'avons fait nous-mêmes, nous n'en étions pas capables, c'est lui qui l'a fait, nous n'y étions pour rien. Un beau jour, nous avons entendu les paroles de l'Évangile et c'est l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau pour que nous puissions voir l'ampleur de notre désobéissance, en souffrir et courir vers Jésus pour trouver la paix en lui au pied de la croix. C'est l'Esprit, c'est lui qui nous a lavés de nos mauvaises consciences. C'est l'Esprit qui a changé nos cœurs hostiles à Dieu en cœurs d'enfants qui se plaisent à être dans la présence de notre bon Père Céleste. Pour le chrétien, une des grandes applications de ce passage, le passage nous invite à l'humilité et à la reconnaissance. Si vous êtes au Seigneur, c'est grâce à lui seul. Il n'y a aucune place pour l'orgueil spirituel, complètement déplacé. Tout comme un bébé ne peut pas dire « Je suis là grâce à moi-même, j'ai donné naissance à moi-même ». Non. Le chrétien doit reconnaître que s'il connaît le Seigneur, s'il aime, s'il déteste son péché, s'il est en train de lutter avec son péché, c'est parce que Dieu a fait ce miracle dans son cœur. Ce passage nous invite à l'humilité et à la reconnaissance. Nous devons tout à l'œuvre souveraine de l'Esprit de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et cette vérité en elle-même est transformatrice et bienfaisante. Méditons-la cette semaine. Laissons-la remplir nos cœurs de joie et de gratitude. Remercions Dieu pour cette grâce absolue. Une autre grande implication et application de ce passage est celle qui concerne notre évangélisation, notre partage de la foi. Ce passage nous aide à voir ce qui est en train de se passer lorsque nous partageons la parole autour de nous, lorsque nous partageons notre foi à la maison ou à la fac ou au travail ou même dimanche matin aux études bibliques. Dieu est à l'œuvre par son esprit. Par son esprit, au moyen de cette parole, Dieu attire de manière irrésistible les gens vers lui, vers son Fils, au pied de la croix. C'est Dieu qui fait le vrai travail, ce travail de la nouvelle naissance. Notre travail, c'est simplement de partager ces paroles vivantes et vivifiantes. Ensuite, on doit faire confiance à Dieu. On ne peut pas persuader de manière outrancière les gens, on ne peut pas manipuler les gens, on doit annoncer ces paroles vivifiantes et faire confiance à l'Esprit. C'est aussi pour ça que l'annonce de la parole doit être toujours la priorité de l'Église. Il faut que cette annonce soit au centre de tout ce que nous faisons ici le dimanche matin, à l'école du dimanche, au groupe des seniors, au culte de midi à la Défense. C'est aussi pour ça que le témoignage, l'annonce de la parole est si important. Par cette parole, l'Esprit fait vivre. Il donne la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance dans le monde a si cruellement besoin. Mot de la fin. Si ce matin vous êtes là parce que vous voulez vous renseigner un peu sur la foi chrétienne, vous n'avez pas encore fait une démarche de foi ou d'engagement, vous êtes au bon endroit. Continuez à écouter les paroles de Jésus, le message de la bonne nouvelle de la grâce. Et demandez à Dieu de vous donner cette nouvelle vie, cette vie spirituelle, cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui ouvre les yeux et qui nous permet de mettre notre foi, de nous accrocher pleinement à Jésus. Je vous invite à la prière. Prions. C'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Merci notre Père pour ta parole, la parole faite chair, Jésus, celui que tu as envoyé pour que nous puissions être pardonnés. Nous voulons te remercier du fond de nos cœurs pour lui. Nous voulons te remercier du fond de nos cœurs pour ton œuvre en nous, cette œuvre souveraine qui est ton œuvre du début jusqu'à la fin. Merci notre Père de ce que tu as changé notre hostilité en amitié. Père, nous n'en étions pas capables, nous étions hostiles, loin de toi, tes ennemis. Mais merci pour cette parole, l'Esprit, qui nous a conduits au pied de la croix pour trouver la paix. Père, je te demande de nous aider à vivre de cette parole de cette semaine, d'être humble devant elle, d'en être reconnaissante, et puisse cette reconnaissance, cette humilité, cette parole, l'Esprit, nous transformer cette semaine. Et Père, je te remets tous ceux qui ce matin sont là pour enquêter aussi sur la foi chrétienne. Je te demande de faire ton œuvre par l'Esprit, au moyen de la parole, pour donner la vie spirituelle, cette résurrection spirituelle. Père, je t'ai demandé toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.